La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Comment sensibiliser les enfants à leurs droits? C'est ce que fait l'association Asmae Sœur Emmanuelle. Elisabeth, dans toutes les villes de France et ce depuis le début du mois.
Oui, des permanents de l'association Asmae Sœur Emmanuelle ainsi que des jeunes en service civique sillonnent en ce moment les routes de France et posent leurs valises dans des écoles dans une quinzaine de villes françaises. Alors ça a démarré à Strasbourg la semaine dernière, je crois que demain ils seront à Lyon. L'objectif de cette opération, eh bien, c'est de sensibiliser les élèves et les étudiants aux droits de l'enfant et à l'action solidaire. Bonjour Adrien Salez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur responsable du programme et sensibilisation au sein de l'association Asmae Sœur Emmanuelle. Alors, l'idée, elle existe depuis 2014, mais c'est la première fois cette année que c'est un tour de France des écoles pour aller à la rencontre des enfants.
Effectivement, on s'appuie sur les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est un texte pas très connu, mais il faut en parler, qui sera célébré le 20 novembre.
Journée internationale des droits de l'enfant.
Absolument, avec un anniversaire important. Et on a pris le prétexte de cet anniversaire pour prendre nos valises, comme vous l'avez dit, et un véhicule, et faire un tour de France pour aller sensibiliser les enfants, mais aussi les adultes, aux droits de l'enfant. Les adultes, c'est important aussi, parce que ce sont eux qui sont garants du respect des droits des enfants.
Alors comment ça se passe très concrètement? Vous allez dans les établissements scolaires, c'est quoi? C'est un atelier, c'est des questions-réponses, c'est des films, des vidéos, comment vous faites?
Alors on s'adapte à l'âge des publics.
Donc ça peut être primaire, collège, maternelle?
Exactement, primaire, collège, lycée. Et pour vous donner un exemple, dans les écoles primaires et dans les collèges, on a conçu un escape game. Donc on propose aux enfants non pas d'être passifs et d'écouter une sensibilisation aux droits de l'enfant, parce que ça va durer 10 minutes.
Et ensuite après, vous les perdez.
On les perd, effectivement. Un des droits de l'enfant, c'est la participation. Donc on veut que les enfants soient acteurs et qu'ils participent. Donc là, on arrive et on dit aux enfants, voilà, vous avez un copain qui s'appelle Nathan, et Nathan a disparu. Et on donne un challenge à chaque classe. On leur dit, vous allez devoir retrouver Nathan. C'est un jeu de piste qui dure une heure, qui met les enfants et la participation au centre. Et à la fin, ils découvrent que leur copain, Nathan, qui n'existe pas pour le vrai, eh bien, il s'est impliqué sur les droits de l'enfant. Il a mis en place un réseau d'ambassadeurs dans le monde et qu'il est occupé par une réunion pour promouvoir les droits de l'enfant avec ses copains qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie. Et donc les enfants, par un système de jeu de piste, alors il y a des messages de Nathan enregistrés sur une clé USB, ils fouillent la classe, ils ouvrent un coffre-fort, etc. Et à la fin, évidemment, ils découvrent que Nathan est devenu un ambassadeur des droits de l'enfant. Ils découvrent leurs droits de l'enfant. Et ce qui est important, au travers de cette sensibilisation, l'objectif pour nous, c'est que les enfants, s'ils sont eux-mêmes confrontés à des difficultés, eh bien, ça puisse les aider à en parler.
Ça peut être quoi comme difficulté? Quelle est la leçon qu'ils doivent retenir à l'issue de cet escape game, à l'issue de votre passage dans leur école?
D'abord, il y a des inégalités très importantes d'accès aux droits d'enfant dans le monde. On leur parle des actions qu'on mène.
Mais ils savent ce que c'est, le droit de l'enfant?
Alors, ils ont... C'est drôle parce que les enfants ont une intuition très forte de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste. Après, le concept de droit, on est là pour leur expliquer. En revanche, ils savent très vite décrypter quand eux-mêmes sont victimes d'une situation qui n'est pas normale ou quand un copain à eux est l'objet d'une violence ou d'un harcèlement. Ça, ils le comprennent très vite. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent s'exprimer si eux-mêmes, ils ont une difficulté et qu'ils puissent aider leurs copains si leurs copains ont des difficultés. Et demain, ces enfants qu'on a rencontrés seront des ados et des adultes plus respectueux, responsables.
Notre coach, Christophe Chaud.
Alors moi j'ai une question toute bête en fait, et je dois avouer finalement que je me rends compte, je ne suis pas tant familier que ça, les droits de l'enfant. C'est quoi les droits de l'enfant et vous leur parlez de quoi?
Alors les droits de l'enfant, il y en a une dizaine qui sont inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant, rapidement, hein, donc c'est le droit à l'identité, à la famille, à la participation, à la vie privée, à la protection, à l'égalité, à la santé, à l'éducation et à la justice. Chez Asmae, l'association de Sœur Emmanuelle, on est assez orienté sur l'accès à l'éducation et à la protection. Voilà. Le champ d'intervention de l'association, il est sur ces deux droits fondamentaux. Pour vous donner un exemple, j'étais il y a quelques semaines à Beyrouth, dans des camps de réfugiés dans lesquels il y a des enfants réfugiés syriens. Ce sont des enfants qui ont vécu la guerre, qui sont traumatisés par la guerre. Hein. Pour certains, ils arrivaient chez eux. Et au moment de rentrer chez eux, il y a une bombe qui tombe sur la maison. Dans la maison, il peut y avoir un petit frère, un papa, etc. Donc, c'est des enfants qui ont vécu des choses très dures et qui ont besoin d'être protégés. Donc
protection et éducation, c'est les deux thèmes, entre guillemets, qui ressortent systématiquement lors de ces ateliers.
Lors de
quand
des interventions.
Quand vous parlez des droits de l'enfant.
Et c'est cohérent, évidemment, avec les projets que mène Asmae en France et à l'international.
Vous terminez le 29 novembre au Mans, c'est ça ?
Exactement.
Comment peut-on vous aider, nous ?
Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que vous pouvez nous aider, chacun, ici, dans le studio, et puis les personnes qui nous écoutent, en ouvrant ces petites antennes. D'abord, en prenant un peu de recul sur soi-même, en se disant... Est-ce qu'avec les enfants qui sont autour de moi, j'ai toujours une attitude appropriée ? Ça commence par nous, le droit des enfants. Et puis ensuite, on peut aider les associations qui s'occupent des enfants vulnérables à Asmae, mais il y en a plein d'autres, évidemment.
Et on suit évidemment le Yala Tour qui a commencé et qui s'achèvera le 29. Merci beaucoup
Bravo.
D'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. C'était La Solution.
Il est midi 57.
Europe 1.
Et on reste ensemble. Novembre, c'est aussi le mois sans tabac. Si vous n'arrivez pas à arrêter, on va vous aider avec trois initiatives qui sortent du lot. C'est ça aussi la France qui bouge. À tout de suite.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge et comme nous sommes au mois de novembre, on a décidé de vous montrer que oui, il existe des tas d'initiatives pour vous aider à arrêter de fumer ou pour vous convaincre que c'est votre santé qui est en jeu. Vous allez découvrir avec nous trois de ces initiatives. La première est assez originale, inattendue même, elle se passe sur les planches. Bonjour Mathieu Ducret.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes comédien et vous jouez en ce moment un seul en scène, hein, c'est comme ça qu'on dit, baptisé Confession d'un fumeur. Ce fumeur, il s'appelle comme vous, tiens, c'est bizarre, Mathieu, il a 40 ans.
Oui.
Racontez-moi, comment est née l'idée du spectacle ?
Alors moi d'abord, je suis humoriste, sketchman, j'ai beaucoup travaillé à la télévision et je cherchais un thème pour faire un spectacle humoristique, mais je voulais un thème avec du fond, pas juste faire que des blagues. Et j'ai arrêté de fumer, moi, il y a 6 ans. Grâce à une séance que j'ai suivie, une séance de la méthode Alan Carr, en 4 heures de temps, on m'a expliqué les raisons pour lesquelles je fumais plutôt que les raisons pour lesquelles je devais arrêter de fumer. Et j'étais quand même à 2 paquets par jour. Et un samedi midi, j'ai écrasé ma dernière cigarette.
Et ça je veut dire suis... que vous êtes arrêté
comme,
Voilà.
Comme ça, et après j'ai pris de la vaporette, mais j'avais pas mis de nicotine dedans, puis au bout d'un moment je m'en suis lassé. Et donc j'ai réussi à arrêter comme ça, et je me suis dit en cherchant une idée pour ce spectacle, mais c'est quand même un thème vachement bien, parce que ça parle à beaucoup de gens. La vie d'un fumeur, elle est quand même tragicomique, parce que le fumeur se croit à chaque fois quelqu'un de unique, alors qu'en fait c'est la même histoire pour tout le monde. On commence toujours à fumer, pour entraîner par les copains ou pour plaire aux filles. Après c'est pour se donner une contenance, on croit que c'est du plaisir, on croit que c'est du réconfort. En fait, on se fait avoir complètement jusqu'au bout de la ligne. Et au début, comme on le dit dans le spectacle, c'est la fameuse phrase d'Hemingway qui dit « À 15 ans, j'ai commencé à fumer pour me prouver que j'étais un homme. Et puis, 40 ans après, j'essaye d'arrêter pour la même raison. » Voilà.
Bon, oui, effectivement. Ça sent le vécu quand même.
C'est que du vécu.
Donc, c'est forcément... Bon, Mathieu qui est sur scène, c'est le même Mathieu ou c'en est un autre ?
Alors,
c'est un personnage ?
Non, on n'est pas loin de moi. Après, évidemment, comme c'est humoristique, on a rajouté des blagues. Et puis surtout, on va aussi beaucoup dans l'autodérision, comme on ne veut pas du tout faire culpabiliser les gens. Moi, je raconte mon histoire, alors je suis le pire des fumeurs dans mon histoire. Donc tout le monde rit de mon expérience. En même temps, ça peut aider les gens, ça rappelle d'autres histoires. Et c'est moi, on va dire, en poussant un peu le trait. Mais à un moment, le fumeur, il se retrouve pris dans un vrai problème parce qu'il est coincé entre la peur d'arrêter et la peur de continuer. Parce qu'on en parlait avec Fabrice, qui ne me dira pas le contraire tout à l'heure. Ça fait appel à des réflexions neuronales, je ne sais pas si c'est le mot exact. Mais en tout cas, le fumeur, à un moment donné, il range l'addiction à la cigarette comme le boire ou le manger. Donc pour lui, arrêter de fumer, c'est comme s'il arrêtait de boire ou manger. Donc c'est très dur pour un fumeur d'arrêter de fumer. Moi, j'ai réussi à le faire, c'est pas impossible. Il faut essayer de le faire tous ensemble, c'est la raison du mois sans tabac d'ailleurs. Mm-hmm. Et si moi je l'ai fait, c'est quand même que c'est possible. J'en ai fait un spectacle, on en rit. Voilà, c'est sympa, c'est rigolo et on apprend des choses.
Vous avez commencé le 27 septembre, c'est quand même assez nouveau.
Oui.
Vous allez peut-être partir en tournée, je crois,
après le mois
de janvier, quand vous aurez d'abord terminé ici à Paris.
Oui, au Théâtre Galabru, tous les vendredis et samedis à 19h45. Et après, après, on partira en tournée dans toute la France à la conquête du public de tout le monde.
Elisabeth, on est au théâtre, mais il y avait un film aussi, non, qui avait déjà évoqué cette question
mais
du tabac.
Mais cette prise de conscience, il faut arrêter de fumer. Tiens, si je vous dis, le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Ouais, ça vous dit tous quelque
Didier
chose.
Didier Bourdon, Les Inconnus.
Eh ben voilà, Didier Bourdon, Les Inconnus, c'était leur deuxième film avec cette réplique culte. C'était en 1997 et le film s'appelait Le Pari. Voilà, dès 1997
exact.
Déjà, on voulait arrêter de fumer.
Et j'ai croisé Didier Bourdon pas plus tard qu'il y a 15 jours, qui jouait également là au théâtre dernièrement. Et il me dit, on a fait un grand succès avec ce film-là parce que ça touche tout le monde.
C'est ça, ça
les fumeurs comme les non-fumeurs. Les fumeurs, évidemment, parce qu'on parle de eux.
Et
les non-fumeurs, parce qu'on est tous en contact avec un fumeur et qu'on veut aider. Et puis, on ne comprend pas comment il fonctionne.
À partir du moment où vous avez joué, est-ce que les gens viennent vous voir après pour discuter avec vous et pour vous dire on est convaincu ?
Je suis psychiatre médecin.
Oui, c'est ça. Je sentais bien les
consultations dans la loge.
dans la loge, ça va, ça reste tranquille. Mais c'est dehors, effectivement, parce que chacun me dit mais oui, mais ça, ce que tu dis, mais c'est tellement ça, c'est tellement moi. Là, ce que tu racontes dans le magasin de cigarettes électroniques, on est en train de nous vendre des arômes à paprika ananas, mais nous, ce qu'on veut, c'est une clope, en fait, c'est tout. Donc voilà, donc on rigole beaucoup de ça, effectivement, et les gens, le fait de rire, c'est salvateur. Aussi, le rire aide forcément à réfléchir, à comprendre. Et puis voilà.
Oui, vous dites finalement, mes pères dans ce métier-là, c'est des proches, c'est Coluche.
Et oui, c'est pour ça
on
que j'ai
est
mis
sur
longtemps.
Des sujets importants. Hein.
Voilà, c'est pour ça que je voulais pas juste faire des blagues. Je me suis dit, si ça fait pas avancer le schmilblick, comme disait Coluche, à quoi ça sert ?
Quoi
donc
ça
autant
sert
faire rire en faisant réfléchir.
Notre coach, que dit-il ? Est-ce qu'il fume, tiens, notre coach ?
Le coach, il fume un petit peu.
Un tout petit peu.
Donc il va aller voir Confession d'un fumeur.
Ouais. Bien sûr. Non, le coach, il se pose des questions sur qu'est-ce qu'on dit aux petits fumeurs, en fait. Et ça. Mais peut-être que c'est plus au docteur qu'il faudra poser cette question tout à l'heure.
C'est quoi un petit fumeur ?
Un petit fumeur, c'est quelqu'un qui vous tape des clopes pour commencer parce qu'il les achète pas et qui croit qu'il fume pas. Donc c'est pas lui, il dit à ses poumons, c'est pas moi, tu vois bien, j'en ai jamais acheté, laisse-moi tranquille. Et voilà. Et après, médicalement, il se passe évidemment des choses, on en parlait encore tout à l'heure avec Fabrice.
Il y a toute une équipe avec vous, on va les citer peut-être.
Bien sûr, évidemment.
Ils sont importants.
Ils sont très importants.
Jean-Roi qui est de l'autre côté de la vitre d'ailleurs.
Le metteur en scène qui est là, Yves Leroland, qui nous a aidé à l'écriture aussi.
Pour les Guignols, évidemment.
Voilà, le directeur, producteur artistique des Guignols de l'Info, Raphaël Potier, qui est auteur aussi, qui a écrit de nombreux spectacles et qui travaille pour Canal+ également, et Éric Serre, qui est le directeur France de la méthode Alan Carr, qui fait les fameuses séances qui m'ont fait arrêter de fumer, et il continue de sauver des vies, et il a évidemment regardé tout ce qu'on a écrit, et il vient souvent...
Il a écrit avec vous,
il a écrit avec nous,
il
a écrit avec nous, il a tout contrôlé, donc on ne dit pas de bêtises du tout, et on est vraiment dans le vrai de la vie du fumeur, et la vie du fumeur, croyez-moi, elle n'est pas drôle, parce que le fumeur, on essaye de le faire culpabiliser en lui disant qu'il n'a pas de volonté. Mais il en faut quand même vachement de la volonté pour se relever au milieu de la nuit, pour aller acheter des clopes, pour se connaître par cœur les horaires de tabac, savoir lesquels sont ouverts, lesquels sont fermés, avoir des cartouches de clopes dans la voiture, dans la boîte à gants, dans la maison de campagne, pas faire taper ses clopes par sa femme qui veut les prendre. Et donc, la vie du fumeur, il a beaucoup de volonté, donc qu'on ne lui dise pas qu'il n'a pas de volonté. Et c'est une vie qui est plus drôle du tout aujourd'hui, quand on sait évidemment tous les risques que ça génère. Et surtout, maintenant, c'est dur de vivre en étant fumeur. On ne peut plus fumer dans ses lieux de travail. Donc, du coup, il faut descendre fumer. C'est compliqué. Il faut attendre l'ascenseur. Faut se couvrir.
Oui, on fume à la maison.
On fume à la maison, voilà. Et puis, au restaurant, on ne peut plus fumer. Donc, finalement, à part essayer de faire déplacer une tablée de 20 personnes en terrasse en plein mois de janvier, là il faut avoir beaucoup de talent et beaucoup de volonté pour le faire, moi j'étais capable de le faire, et eh bien le fumeur finalement sa vie n'est pas très drôle, c'est une vie de combattant.
Bon, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça Elisabeth, c'est qu'on fume moins, il y a moins de fumeurs en France.
Oui, en 2 ans, on assiste à une baisse de 12% de fumeurs et au total, depuis 2016 la France compte environ 1,5 million de fumeurs de moins, mais il reste tout de même près de 12 millions de Français qui continuent de fumer, donc on assiste à une baisse historique, mais il reste tout de même 12 millions de Français. Cette baisse, c'est clairement la conséquence d'abord de la hausse des prix. Hein, la hausse des prix du tabac, c'est la première conséquence, mais aussi de l'élargissement du remboursement de certains substituts nicotiniques par l'assurance maladie, et puis de l'essor spectaculaire de la cigarette électronique. Et à noter, ce mois sans tabac, ça stimule hein, les uns et les autres. On a tous des personnes dans notre entourage qui se disent, tiens, ouais. Il y a ce mois sans tabac,
mais
on
oui,
y va.
Tous ensemble, ouais. Tous ensemble.
Mais ouais, c'est d'abord du collectif. Et d'ailleurs, ce mois sans tabac multiplie par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. Le collectif est essentiel. On se stimule, on se challenge, on se raconte comment on a arrêté, son lien avec son buraliste, voilà. Et puis les économies réalisées. Hein.
Et on va évidemment continuer à en parler de ce mois sans tabac.
Le tabac, c'est à vous, on en viendra tous à bout. Le tabac,
voilà
c'est
la fameuse réplique culte. On reste ensemble sur Europe 1.
Il est 13h17.
Europe 1.
Et si un chatbot vous aidait justement, tiens, à arrêter de fumer, c'est l'ambition de Stop la Clope, lancée ce mois-ci. A tout de suite.
Le mois de novembre, c'est le mois sans tabac. On en parle cet après-midi dans La France Bouge avec vos invités, Raphaël Duchemin. Et vous, qui nous écoutez, dites-nous si vous avez envie d'arrêter de fumer ou alors quelle méthode vous avez utilisée. Si vous avez déjà arrêté, écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous pour nous raconter au 3921, Raphaël.
Il existe des tas de méthodes pour essayer effectivement d'arrêter de fumer. On va en voir quelques-unes tout à l'heure avec Elisabeth. Certains sont persuasives, certaines marchent avec quelques personnes, d'autres pas du tout. Pour encourager ceux qui se lancent, justement dans ce sevrage, l'idée d'un chatbot est née. Bonjour Marjolaine Gondin.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des créatrices de Stop la Clope. Ça fait un an que vous aviez l'idée de lancer un chatbot sur l'arrêt du tabac, mais il a vu le jour tout récemment, cette année. Racontez-moi comment le projet vous est venu en tête.
Oui, en fait, moi à la base, je suis la cofondatrice et la CEO de Jam, qui est le plus gros chatbot aujourd'hui francophone, qui discute avec... plus de 600 000 jeunes dans Messenger et on parle de plein de choses, de sujets d'actualité, de leur bien-être personnel, de leurs relations, de plein de choses différentes. Et c'est une plateforme qui nous permet de tester plein de sujets de conversation. À un moment, on a testé plein de petits challenges. Donc on leur a dit, tiens, on va ensemble faire du sport tous les jours pendant 30 jours. On va t'apprendre à cuisiner et manger bien à petit prix. On va te faire... reconquérir ton ex, pimenter ton couple. On a testé plein de choses. Et à chaque fois, les retours sont super parce qu'en fait, c'est des gens qui ne se sont pas forcément posé la question de se lancer. Mais comme Jam, donc, qui leur parle tous les jours dans Messenger, leur dit, tiens, vous faites, ça te dit de pimenter ton couple. Enfin, d'ailleurs, c'est t'es en couple ou pas? Et puis après, les petites questions, on arrive à, bah, d'accord, moi, ce que je vais te proposer, c'est 21 jours pour pimenter ton couple avec des petits challenges quotidiens. Et finalement, on s'est dit à un moment, quel est le prochain qu'on lance? Et j'ai mon associé Loïc, voilà, ouais, qui est le développeur fume. Qui fume jamais en novembre, du coup, il a trop d'ego pour ça, je crois. Mais qui, en fait, lui, voilà, c'est le développeur derrière tout ça. Moi, je suis plutôt sur la partie contenu, marketing. Et à un moment, je lui ai dit, mais Loïc, qu'est-ce qui ferait, toi, une différence dans ta vie? Quelque chose, tu t'es pas vraiment posé la question, t'es pas prêt à te lancer vraiment et à t'engager pour ça. Mais si t'as un petit coup de pouce, ça ferait une différence. Il dit, bah, moi, je fume plus d'un paquet par jour. Mais bon, je ne crois pas que ce soit un bot qui pourrait m'y aider.
Ah, bah on va essayer.
Et là, je lui ai dit, OK, c'est clairement pas dans notre fameuse roadmap ou feuille de route. Mais tu sais quoi, je vais le faire sur mon temps libre. Et en fait, je lui ai dit, on passe un pacte. Tu me développes toute l'architecture techno. Tu me mets en place un petit...
Vous avez fait le contenu.
Et moi, j'ai fait tout le contenu. Tous les soirs à 21h, je recevais une petite notification qui disait, c'est le moment d'écrire le contenu pour le lendemain. Et donc, je me suis inspirée de plein de programmes de Santé publique France, Ligue contre le cancer, Assurance maladie, enfin, plein de choses différentes, des ressources qui existaient, parce que moi, je ne fume pas.
Oui, puis enfin, vous êtes
en fait, je suis une petite fumeuse, alors désolée. Je taxe les clopes.
C'est elle qui
a voilà, je suis... Et en fait, j'ai écrit ce contenu.
Et l'idée, comme dans le spectacle d'ailleurs, c'est de ne pas culpabiliser. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire aux gens, c'est pas bien, tu fais mal en fumant, mais simplement leur dire, bah, regarde, on va t'aider à arrêter de manière temporaire ou définitive.
Exactement, l'idée, c'est vraiment de dire un challenge pendant 30 jours,
avec
des petits messages tous les jours. Tous les jours, ils te demandent, alors, est-ce que tu pas de clope aujourd'hui? Oui, non, si tu fumes pas, si tu me dis que pas de clope aujourd'hui, je t'expliquerai ce que tu as gagné sur ta santé. Donc tous les jours, il va dire, ah bah c'est super, t'as plus de monoxyde de carbone, t'as réduit ton risque de diabète, t'as fait ci, t'as fait ça. Ou alors il dit, si tu fumes pas, j'ai un petit jeu pour toi. Et le petit jeu derrière, c'est un tableau croisé de combien t'as arrêté de fumer de clope, donc combien t'as économisé, donc un resto de sushi, un massage dans un spa, un week-end, je sais pas quoi. Et à chaque fois, en fait, il y a des petits jeux, des ah là, t'as plus la pêche, t'es fatigué, mais en fait, j'ai une liste d'aliments qui vont t'aider à retrouver la pêche, mais je te la donne que si tu me dis que tu n'as pas fumé aujourd'hui. Et donc en fait, l'idée, c'est plutôt d'encourager et à la fois d'être dans quelque chose de très sympathique, voire empathique, ludique, parce que, ouais. Et ludique aussi, parce que le bot, il dit « Allez, s'il te plaît, tu craques pas. Et d'ailleurs, si t'es là, tu devrais être un peu sur les nerfs, mais tu peux les passer contre moi. » Et du coup, nous, le bot, il a des réactions. Si on l'insulte, il sait répondre, etc. Et à la fois, on montre de manière très pragmatique, puisque justement, on s'est inspiré de ressources. Qu'est-ce que, petit à petit, déjà, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe dans ton mental? À quel moment t'as plus le besoin, mais l'envie? Et donc, ça s'approche de la gourmandise, mais tu peux ne pas craquer. Enfin, on est vraiment dans quelque chose de plutôt au niveau 1, sympathique, quoi.
Notre coach, que dit-il de cette initiative?
Moi, j'adore. J'adore, il faudrait que j'essaye. Non, par contre, j'ai quand même une réflexion, c'est de dire, finalement, le fumeur qui arrête le plus tôt, c'est celui qui commence pas. Et donc, profitant de l'audience de Jam, ce serait peut-être bien aussi d'aller travailler de ce côté-là et de dire aussi comment est-ce qu'on fait quelque chose qui aide les jeunes, surtout, à ne pas commencer.
Oui, c'est ce qu'on fait. On fait des sujets, là, du coup, vraiment sur Jam, puisque Stop la Clope, c'est un bot qui est sorti de Jam, qui est à part. Donc, dans Messenger, on tape Stop la Clope. On commence à discuter avec lui. Dans Jam, dans les sujets d'actualité, on parle de ça, en fait. On parle de la cigarette électronique, on parle de comment pas commencer, on parle du cannabis, vraiment de sujets d'actu. Là, c'est vraiment jouer avec... Et d'ailleurs, il y a des gens qui nous disent « J'ai commencé le bot et en fait, je fume pas beaucoup. Je fume une fois toutes les deux semaines ou vraiment très... en soirée, de manière très occasionnelle. Et en fait, ce bot, du coup, me parlait de clope, donc j'ai pas envie de le faire. Donc là, on a plusieurs types de population. Là, c'est pas ceux qui vraiment ont décidé d'arrêter de fumer, c'est ceux qui se seraient peut-être pas posé la question et qui finalement font le jeu, quoi.
Comment vous allez faire pour développer? Parce que ça marche très bien, hein. 15 000 personnes qui se sont inscrites, ouais, depuis le 1er novembre. La suite, c'est s'adosser justement à un organisme,
oui,
de santé.
Oui, c'est vraiment notre souhait et c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps à le sortir. C'est que nous, on l'avait comme un challenge interne dans Jam et on s'est dit, ça prend quand même des ressources de développer un bot à côté, de le maintenir, de créer d'avoir toute la techno en fait qu'on a développée sur Jam, de la mettre sur un nouvel écosystème. Aujourd'hui, la boîte, elle a grandi et donc pour nous, on s'est dit, ça nous tient à cœur, même si en fait on n'a pas de partenaire, tant pis, on lance, c'est le moment. Mais en fait, avec un partenaire, on pourra aller bien plus loin et en faire quelque chose qui ne dure pas 30 jours, mais quelque chose qui est sur le temps long. Donc, à bon entendeur.
Exactement. Justement, il y a des tas d'applications alors, qui marchent aussi pour arrêter de fumer, Elisabeth.
Il y en a plein. Alors, il y en a une qui s'appelle Quit. Quit, c'est une application alsacienne qui utilise le principe du jeu pour entretenir la motivation. Quand l'utilisateur ne fume pas pendant plusieurs jours, par exemple, il gagne des points. Pareil, quand il économise une certaine somme d'argent ou quand il n'a pas fumé plusieurs cigarettes, il a des points acquis qui permettent de passer à un niveau supérieur du fameux jeu. Donc voilà, et en plus il peut le partager sur Facebook, sur Twitter, donc là aussi il y a cet esprit de collectivité, hein. C'est ça qui peut motiver. Vous avez arrêté de fumer Smoker Stop, c'est certainement une application une des plus complètes parce que d'après les utilisateurs, elle est gratuite. Vous avez Quit Now qui vous montre votre situation en temps réel, sans arrêt, pour faire face aussi à l'angoisse, parce qu'on ne l'évoque pas tout le temps, on dit il faut arrêter de fumer, ça fait économiser de l'argent. Mais il y a aussi une forme d'angoisse, hein, qui peut se dégager quand on arrête de fumer, parce qu'il y a un manque. Donc là, il compte les jours, les heures, les minutes depuis la dernière cigarette. Combien de cigarettes vous avez évité, l'argent, le temps que vous avez économisé. Vous avez aussi l'appli Tabac Info Service qui accompagne tous ceux qui veulent arrêter de fumer, qui est très complète. Vous bénéficiez de conseils personnalisés, là aussi, de tabacologues, et vous suivez les bénéfices de votre arrêt au quotidien. Une application qui a été conçue par des universitaires à Genève qui s'appelle Stop-Tabac. Elle vous propose aussi gratuitement des conseils personnalisés. La plupart de ces applis sont censées vous donner des conseils personnalisés au jour le jour pour justement ne pas lâcher, hein.
On reste ensemble et on continue à parler arrêt du tabac aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Et vous restez avec nous parce qu'on va prendre conscience ensemble qu'il en va de notre santé. C'est l'idée derrière, justement, Smoke Check. A tout de suite. Arrêter de fumer, c'est possible. On en parle dans La France Bouge avec vos invités Raphaël Duchemin. Avez-vous arrêté de fumer? Profitez-vous du mois sans tabac, le mois de novembre qui vient de démarrer, pour arrêter de fumer? Dites-le nous sur Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous appeler au 3921, Raphaël.
Oui, on a tous des tas d'applis plus ou moins utiles d'ailleurs, hein, dans nos smartphones, mais il en existe une qui vous aide à détecter des signes avant-coureurs d'un cancer du poumon. Fabrice Denis, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui l'avez mise au point. Vous êtes cancérologue et vous avez travaillé avec François Goupil, hein, qui est pneumologue. pneumologue. Votre idée au départ, je crois il y a 6 ans, c'était de détecter les rechutes et vous avez créé à l'époque MoveCare, c'est ça ?
C'est ça, c'est une application que l'on avait développée avec une société qui s'appelle Civan, qui visait à détecter des rechutes de cancer à partir de symptômes, en fait. Cette application l'a validée dans des études cliniques comme pour des médicaments et c'est la première qui fait l'objet d'un remboursement par la Sécurité sociale parce qu'elle a montré qu'elle pouvait réduire le taux de mortalité de ce cancer.
De 20%?
De 20% à un an, absolument. Donc c'est quelque chose qui a été en plus confirmé par une étude américaine. Donc maintenant, on est sur une preuve du concept qui est que oui, les symptômes peuvent être suffisamment précoces pour arriver à temps pour essayer de réduire la gravité des maladies qu'on peut détecter.
Donc, vous vous dites, si ça marche pour détecter les rechutes, ça peut marcher aussi en préventif, peut voir des signes avant-coureurs.
C'est ça. Conceptuellement, on s'est dit, si on peut détecter des récidives, on doit pouvoir détecter des maladies. Alors, il n'y a pas que le cancer qui peut être détecté, il y a aussi des maladies coronariennes, cardiaques, et la bronchite chronique, qui est une maladie qui fait tousser, qui essouffle et qui fait le terrain du cancer plusieurs années après. Effectivement, on a travaillé avec un groupe d'universitaires, de pneumologues, de cancérologues pour faire des questions hyper simples, de sorte que ces questions peuvent donner une alerte, pas un diagnostic, mais au moins une alerte suggérant de consulter son médecin.
13 questions, par exemple.
Par exemple, avez-vous une toux persistante depuis plus de 3 semaines ? Eh bien ça peut être un signe de bronchite chronique qui fait le terrain plus tard d'un cancer. Est-ce que vous crachez du sang ? Question qui paraît un peu hard. Eh bien, il y a 2% de fumeurs qui crachent du sang et ça ne leur pose pas de problème. Et pourtant, clairement, il y a un pépin, un gros pépin même. Et donc, cette application, on est en train de l'évaluer dans le cadre d'une grande étude clinique, comme on a fait pour l'étude précédente. L'étude a débuté donc, dans notre institut au Mans, au Centre Jean-Bernard, et il y a 4000 utilisateurs qui ont téléchargé l'application et sont dans une étude clinique. On leur fait signer un consentement de participation à cette étude, qui est anonyme, bien sûr. Et les premiers résultats commencent à tomber après seulement 3 mois de déploiement. Les résultats, c'est qu'il y a 75% de fumeurs qui ont un symptôme inquiétant. Ça peut être une modification de la voix, par exemple.
Oui.
Une voix qui a changé ces dernières semaines. Ou la palpation d'une petite boule, quelque part, qui n'existe pas avant et qui grossit. Ou avoir même du sang dans les urines. C'est un symptôme qui est inquiétant en termes de tumeur de vessie ou rénale. Ou même le fait de cracher régulièrement. Eh bien, en fait, on a compilé ces données pour faire une sorte de tableau de fréquence des maladies chez les fumeurs. Et là, on a vu qu'on avait 5% de fumeurs utilisateurs qui avaient probablement un cancer. Donc évidemment, l'application leur dit de consulter, ne leur dit pas pourquoi, leur dit « vous avez ces symptômes, consultez ». Et après, le médecin généraliste fait son travail, un scanner, etc. Ou alors, 18% ont une bronchite chronique, c'est la fameuse bronchite du fumeur, qui paraît normale au fumeur, mais qui n'est pas normale. Puisque ça prédispose à plus tard avoir des besoins d'oxygène pour respirer, ou voire même faire un cancer.
Cette appli, elle est en cours de développement aujourd'hui ?
Alors, elle est disponible et dans le cadre de l'étude et dans le cadre d'une utilisation pour tout le
donc
monde.
Donc,
on peut la télécharger, absolument. Et surtout, on s'en sert pour modifier le comportement du fumeur. On pose la question...
Ça veut dire qu'elle est incitative.
Elle est incitative. C'est-à-dire qu'avant de remplir les 13 symptômes, on demande au fumeur son intention vis-à-vis du tabac. Est-ce qu'il hésite à arrêter de fumer ou est-ce qu'il ne veut pas arrêter ? Et là, on observe que 80% des fumeurs hésitent à arrêter de fumer. C'est-à-dire qu'ils sont...
La fameuse peur dont parlait Elisabeth
voilà,
tout à l'heure.
Il leur faudrait pas grand-chose, finalement. Ils remplissent les 13 questions. 3 fois sur 4, il y aura une alerte. Heureusement, pas pour un cancer à chaque fois. C'est même en minorité. Mais bon, pour des maladies bénignes qui nécessitent quand même d'être prises en charge. Et là, quand on leur repose la question « Est-ce que vous voulez arrêter ?», c'est intéressant parce qu'on a près de 35% chez qui on déclenche une intention d'arrêt. Et on les oriente vers Tabac Info Service, par exemple, ou leur médecin généraliste. Et 50% ont une intention nouvelle de réduction de leur tabagisme.
Donc il y a un effet immédiat.
Il y a un effet, on déclenche, alors peut-être par un effet de peur aussi, mais on déclenche ce réflexe, cette modification de comportement qui font que les hésitants peuvent basculer vers une intention d'arrêt.
Oui, c'est important de le dire parce que vous dites si on éradiquait complètement la cigarette, ce serait 30% des cancers qui seraient évités.
Ah oui, non, mais là, après, lorsqu'on rentre dans des chiffres, il faut considérer par exemple, moi je suis Manceau, 150 000 habitants. Cette ville est rayée de la carte tous les 2 ans parce que le tabac, c'est 70 000 morts par an. Un fumeur sur deux mourra du tabac, surtout s'il démarre dans l'adolescence ou dans en tant que jeune adulte. Et les femmes font des cancers 10 à 15 ans plus tôt que les hommes. C'est-à-dire que moi, dans ma pratique clinique, je vois arriver des femmes qui ont 45-50 ans. Donc voilà, elles ont des enfants qui commencent à être majeurs, etc. Et là, la nouvelle tombe. Mais il y a, la nouvelle, elle n'est pas bonne quand il y a un cancer. Et parce que ce cancer est diagnostiqué souvent trop tard, parce que les symptômes persistent déjà depuis des mois et les fumeurs ne connaissent pas les symptômes qui devraient les inciter à consulter.
Notre coach, Christophe Chaud.
Moi, il y a une chose qui me surprend, c'est alors, je vais à l'encontre de mon écosystème, puisque les applications, tout ça, c'est en plein chez nous, mais pourquoi une application et pourquoi pas quelque chose de beaucoup plus vaste? Je pense par exemple à, je sais pas, la médecine du travail. De dire, on rend, si ces 13 questions elles sont reconnues comme étant d'utilité publique, en quelque sorte, comment se fait-il qu'on n'ait pas quelque chose de beaucoup plus systématique?
Parce qu'on s'est mis l'objectif d'évaluer, d'avoir la preuve clinique de l'efficacité. Là, on est en train de l'avoir. Donc, bien sûr, l'étape suivante, c'est d'aller voir les autorités. On travaille déjà avec les autorités de santé, hein, ministère de la Santé, etc. Mais il fallait la preuve. On est dans du dispositif médical, même si c'est qu'une application qui paraît très simple avec des questions. On est sur quelque chose qui nécessite un élément de preuve. Et ensuite, bien sûr, l'idée, c'est de déployer au maximum au travail, mais aussi dans les lycées, etc. Mais en s'appuyant sur une base scientifique et non pas en s'auto-attribuant le fait qu'on est les meilleurs, efficaces. Non, ça se démontre. Et une fois que c'est démontré, c'est plus facile.
On reste ensemble et on va voir si on a des témoignages justement sur ce mois sans tabac. Il est 13h38.
Europe 1.
On vous attend 39-21 Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge avec vous. A tout de suite. Le mois de novembre, c'est le mois sans tabac. On en parle cet après-midi dans La France bouge. Raphaël Duchemin avec vos invités. Nous sommes avec Mathieu Ducré, comédien, auteur de Confession d'un fumeur, une pièce au théâtre Montmartre Galabru, qui se penche sur les raisons pour lesquelles on fume, hein, et non pas le contraire. SmokeCheck, application pour smartphone qui entend aider le grand public à détecter en quelques minutes et le plus tôt possible les signes d'un éventuel cancer du poumon. 13 questions. Fabrice Denis, co-créateur et cancérologue, est avec nous. Et puis Marjolaine Grondin, co-créatrice de Stop la Clope, le chatbot qui aide à arrêter de fumer, et de Jam, évidemment, qui est le point de départ de ces chatbots. Notre coach Christophe Chaud pour Microsoft France et évidemment Elisabeth Assayag à mes côtés. On a un appel, un premier appel au 3921. Véronique qui est à Toulouse. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour.
Vous avez arrêté de fumer?
Oui, ça fait 13 ans maintenant que j'ai arrêté de fumer.
Et ça vous a pris du temps manifestement?
Oui, beaucoup d'essais infructueux en fait, beaucoup de méthodes différentes. Et pour finir, on a pris les choses dans l'ordre avec mon mari, c'est qu'on est allé voir un tabacologue.
Oui, 8 tentatives, et c'est ça, pour tous les deux?
8 tentatives, oui, chacun.
Ah oui, ça fait 16, oui.
Bon, on a essayé ensemble, bien entendu, à chaque fois, mais c'est d'autant plus compliqué, effectivement, quand on est deux.
Qu'est-ce qui a été le déclic, justement, dans ce que vous a dit le tabacologue?
Les réflexes en fait du fumeur et les causes en fait profondes de l'addiction dont on n'a pas forcément conscience quand on fume quotidiennement. Et on fumait vraiment beaucoup, on fumait un paquet et demi chacun avec mon mari par jour.
Ça inspire des réactions en studio, Mathieu.
Ben oui, parce qu'effectivement, tant qu'on ne comprend pas réellement les causes, en fait, c'est comme si on soigne les effets, mais sans les causes. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent de fumer, mais pas pour les bonnes raisons. Par exemple, la femme enceinte, on en parle dans le spectacle, qui arrête de fumer parce qu'elle attend un enfant, bon, ben c'est super, ça marche 9 mois. Mais comme elle le fait pour son enfant, donc elle a bien conscience que la cigarette, c'est mauvais pour le fœtus, mais pas pour elle. Donc dès que l'enfant est né, elle reprend. Il y a plein de choses comme ça, il y a des fumeurs en sommeil.
Et une fois
qu'on a compris, c'est beaucoup plus éclairant.
Fabrice Denis.
Il faut aussi savoir pourquoi on fume. Sur le plan, on va dire, médical ou biologique, tout le monde n'est pas apte à fumer. Il y a à peu près un tiers de la population qui a une sensibilité en termes de cerveau à la nicotine. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de divergence génétique qui fait que les fumeurs auront un attrait et une addiction à la nicotine. Et c'est 30% des personnes. En Asie, c'est 50% des personnes qui ont cette, on va dire, cette petite mutation qui fait que y a 50% de fumeurs en Asie.
Ouais, alors
que on n'est pas du tout égaux vis-à-vis de l'addiction et encore moins vis-à-vis de l'arrêt.
Merci Véronique qui nous appelait au 3921 de Toulouse et qui a donc réussi, bravo, après 8 tentatives. Marie-Hélène est du côté de Marseille, elle nous dit: j'ai arrêté de fumer grâce à Info Tabac Service depuis 2 ans maintenant. Et puis on a aussi des messages Twitter.
Oui, on a Olivier notamment qui nous dit: j'ai vécu l'arrêt du tabac de mon père quand j'avais 13 ans à partir du plan de 5 jours. Sincèrement, en aidant quelqu'un à s'arrêter, ça ne donne pas envie de commencer.
Elisabeth, on parlait de disparité, il y en a aussi sur le territoire manifestement.
Oui, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la région de France où l'on fume le plus
Oui. Et en Ile-de-France, c'est celle qui compte le moins de fumeurs. Ça vous fait sourire dans le studio, mais c'est la vérité. Alors que l'Ile-de-France et les Pays de la Loire sont les régions les plus vertueuses, avec respectivement 21% et 23% de fumeurs. Quatre régions dépassent la moyenne nationale, donc la région PACA, les Hauts-de-France, l'Occitanie et le Grand Est.
Tous les trois, vous avez des solutions bien à vous. Alors, pas forcément pour arrêter, mais pour nous aider à prendre conscience, en tout cas, que la cigarette, ça n'est pas bon pour notre santé. Confession d'un fumeur, on agit en amont sur les raisons qui nous poussent à fumer.
Oui, on agit là-dessus. Puis une fois qu'on comprend, évidemment, bah, on se dit « Ok, là, effectivement, c'est plus clair. » Et puis surtout, le rire... Moi, dans mon spectacle, c'est un spectacle humoristique qui ne fait pas culpabiliser. Et ça peut aider à faire comprendre les choses aussi, se dire, voilà, on ne va pas non plus tout dramatiser. On va y arriver ensemble, on se met en chemin et puis on y va. C'est une pierre à l'édifice.
Elisabeth ?
Comprendre les raisons qui nous poussent à fumer. Quand on se met à fumer à l'âge de 16 ans et qu'on a envie d'arrêter à 35 ans, on n'est pas dans les mêmes raisons. Quand on commence à 16 ans, il y a une histoire d'appartenir à un groupe, il y a un lien social, il y a une... question de confiance, d'assurance. À 35 ans, c'est pourquoi on fume ? Ce n'est pas les mêmes raisons qu'à 16.
Ah, puis alors là, il y a beaucoup de cas différents. Simplement, le point commun, c'est qu'à partir du moment où on a cette prédisposition à être très sensible à la nicotine, une seule cigarette pourra suffire. Là où, effectivement, dans d'autres cas, finalement, il n'y aura pas de sensibilité individuelle pour fumer. Mais par contre, à 16 ans, le problème, c'est que même si le jeune n'est pas spécialement addict à sa cigarette, il va être addict au contexte social, à la valorisation qui peut être associée à ça. Et c'est le problème aussi des cigarettes électroniques Juul aux États-Unis, où ces cigarettes sont très distribuées. Et on peut créer des addictions chez des jeunes qui initialement n'étaient pas prédisposés.
Merci à tous les trois d'être venus nous présenter vos différentes initiatives pour nous aider à arrêter de fumer ou comprendre en tout cas que le tabac c'est mauvais pour notre santé. Je rappelle le spectacle Confession d'un fumeur, ça a commencé depuis le 27 septembre et c'est au théâtre Galabru, Montmartre-Galabru.
Oui, en tout ce à moment. Fait, le vendredi et le
Merci
samedi à 19h45.
D'être venus tous les trois sur Europe 1.
Merci.
Il est 13h47.
Europe 1.
Restez avec nous, on va découvrir l'entreprise qui va bien, c'est la maison Chancerelle. A tout de suite.
La France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Cette entreprise, c'est Chancerelle. Bonjour Jean-François Hugues.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de cette belle maison qui est née en 1853 et dont on connaît en fait tous les marques, que ce soit Connétable ou Le Savoureux par exemple. On est avec Chancerelle du côté de Douarnenez. Il faut se replonger à l'époque, avant ce qu'on appelle l'apertisation. On pressait les sardines, c'était une manière de les conserver, c'est ça ?
Oui, l'histoire de la sardine est très ancienne puisque ça remonte déjà à l'époque des Romains qui faisaient du garum, qui était une épice... Ensuite, au XVe siècle, on a eu de la sardine fumée. Et on est arrivé fin du XVIIIe avec une sardine pressée et jusqu'à Appert en 1795 qui a lancé l'apertisation. Et la première sardine qui a été apertisée a été faite par Joseph Collin en 1810 à Nantes.
Et c'est Robert Chancerelle qui va acheter la première presse à sardines pour lancer l'entreprise.
En fait, ce sont deux frères, Laurent et Robert, qui ont commencé en 1828 et qui sont arrivés à Douarnenez dans les années 1850.
Oui, parce qu'il est nantais aussi.
Et oui, il est nantais. Et ils sont arrivés à Douarnenez puisque la baie de Douarnenez était une baie très poissonneuse. Et ils ont racheté une entreprise qui s'appelait Clairian. Et pour la petite histoire, cette entreprise avait fait les premières conserves dans des boîtes en bois. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont commencé en 1853. On les a rachetés un petit peu après. Et la date de départ de l'entreprise, on l'a pris la date de la première conserve chez Clairian.
Alors, la sardine n'est pas toujours présente, malgré ses eaux très poissonneuses. Il y a des hauts et des bas pour Chancerelle. Mais, bizarrement, c'est la guerre qui va relancer l'entreprise.
Tout
parce
à fait.
On envoie les boîtes de conserve aux soldats.
Tout à fait. Et dans les années, l'année des pionniers jusqu'à la guerre de 14, il y a eu deux très grandes pénuries, 1880 et 1887. Et à la veille de la guerre de 1914, Chancerelle était en difficulté et la guerre a relancé l'activité.
Il y a des passages délicats, notamment quand la cinquième génération arrive, l'entreprise va mal. C'est Robert Chancerel, l'autre Robert Chancerel, qui relance et qui crée Connétable en 1951,
c'est ça ? Tout à fait. Donc dans cette famille, c'est les Robert qui ont, eu la chance de relancer l'entreprise à chaque fois et d'en assurer la pérennité. Et donc il a lancé la marque Connétable en 1951. Et c'est de cette époque, je dirais, il a fondé les valeurs de l'entreprise qui sont basées sur la qualité en premier, le savoir-faire traditionnel.
Et il va même démarcher lui-même les clients.
Et on a des relations. À l'époque, on avait toujours des intermédiaires. Et lui, il a commencé à dire, il n'y a plus d'intermédiaires. Je vais voir mes clients et je vais chercher mon poisson aussi. Puisque grâce à la congélation, dans les années, début des années 60, on a pu congeler le poisson. Donc, on a pu conserver les employés toute l'année dans les usines. Parce qu'avant, ils arrêtaient.
La sixième génération arrive, personne ne peut reprendre après elle, et vous arrivez en 2009. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez travaillé pour Régilet notamment, et vous dites, finalement, il y a des points communs entre ces deux marques.
Tout à fait. Les points communs, ils sont sur une vieille marque, patrimoniale, française, puisque la poudre de lait, comme la sardine, ont été, des marques françaises importantes. Et il y avait ce côté, provincial, d'avoir une entreprise qui n'était pas à Paris et une façon de vivre qui est tout à fait différente.
Que dit notre coach de cette aventure, Chancerel ?
Moi, ça me parle. Déjà, ça me parle en tant que breton et puis en tant qu'amateur, j'allais dire de bonne chère, de manière générale. Et justement, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait le succès aujourd'hui de la conserve ? Parce que pour le coup, c'est effectivement quelque chose d'ancien. Le frais est accessible partout aujourd'hui facilement. Donc, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous continuez à réussir dans ce monde de la boîte de conserve, finalement ?
Plusieurs raisons à ça. D'abord, on a des produits que vous ne trouverez pas ni en frais, ni en congelé. Parce que la plupart des produits frais ou congelés sont des copies, le congelé que du copie. Alors que la conserve, c'est un produit différent. Donc ça, c'est déjà le bon point pour la conserve. Ensuite, on trouve que, notamment la sardine, est un poisson qui est à la mode. Et les consommateurs aiment bien ces petits poissons. Vous verrez sur le sac que j'ai apporté aujourd'hui, on a des sacs avec des petites sardines qui sont tendance. Et en plus, ce sont des produits qui aujourd'hui conservent toute leur... Alors, on a un côté nutritionnel, puisque toute la saveur et toutes les
oméga-3,
les oméga-3, tout même le calcium que vous avez dans la sardine, est conservé par la pertinisation. La stérilisation, si on veut, c'est quelque chose qui vous les conserve par la chaleur. Donc, il n'y a pas d'additif. C'est le produit tel qu'il est pêché, que l'on met dans la boîte. Et ça fait un produit, qui est très sain.
Aujourd'hui, il y a 2000 personnes qui travaillent pour vous. 800 en France, une grosse partie aussi au Maroc, puisque vous avez ouvert des usines là-bas. En 10 ans, le chiffre d'affaires a été multiplié par 2,5.
Oui, tout à fait.
C'est une très belle réussite.
On peut le dire.
Oui. La suite, c'est quoi, justement ?
Pour moi, la suite, c'est de transmettre, puisque j'arrive...
Ça y est, il y a un nouveau directeur général.
J'arrive à l'âge de la retraite et il y a un nouveau directeur général qui est arrivé. De toute façon, la suite, c'est toujours... chez nous, on est toujours pareil, mais on se renouvelle. C'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est que l'entreprise reste familiale, ça c'est important, elle est 100% familiale, qu'elle reste à Douarnenez, c'est très important. On est créateur d'emplois importants dans cette région et on se sent responsable de tous nos salariés. Et l'autre chose, c'est qu'on a une marque Connétable qui est très forte. Et ce qu'on veut, c'est qu'elle soit à la fois gourmande, c'est qu'elle soit dans la pêche durable, inscrite dans la pêche durable et inscrite, dans la santé, dans le sens des bienfaits de la santé.
C'est la maison Chancerel, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Jean-François Hugues d'être venu nous la présenter, nous en parler joliment aujourd'hui. Merci à Christophe Chaud qui était notre coach,
Raphaël.
Elisabeth
Merci.
Et Céline.
À demain.
On vous donne rendez-vous demain.